VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 22 novembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, appel à la tolérance mutuelle du président de la Commission électorale nationale indépendante, alors que débute la campagne pour les élections du 23 décembre prochain.
De leur côté, les États-Unis ont appelé hier à des élections crédibles et pacifiques en RDC.
Au Burkina Faso, deux personnes sont mortes dans un affrontement impliquant des Kogweogo dans un quartier de Ouagadougou.
Ici aux États-Unis, échange sans précédent entre le président Donald Trump et le président de la Cour suprême John Roberts sur la neutralité du judiciaire.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, début de la campagne électorale en vue des élections du 23 décembre, le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé hier ses 30 jours de campagne, qui commencent officiellement jeudi à minuit, en appelant les candidats à la tolérance mutuelle. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Que le meilleur gagne, c'est sur cette phrase que Corneille Nangaa a lancé mercredi à Kinshasa la campagne électorale d'un mois qui s'est ouverte ce jeudi pour l'élection présidentielle, les législatives nationales et provinciales du 23 décembre 2018. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a par ailleurs souhaité que la campagne ne soit pas un moment de violence et a appelé devant des membres de l'opposition et du Front commun pour le Congo, la coalition pouvoir, les candidats à la courtoisie et au débat d'idées. Le même appel a été relayé par la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchoubekwa, qui met en garde les candidats contre tout discours incitant à la haine et à la violence. Les 21 candidats présidents de la République, les 15 355 candidats députés nationaux et les 19 640 candidats députés provinciaux ont jusqu'au 21 décembre courant pour convaincre leurs électeurs à voter pour eux. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pour leur part, les États-Unis ont appelé hier à des élections crédibles et pacifiques en République démocratique du Congo. Le point avec Raissa Girondin.
La RDC a une occasion historique pour organiser une élection crédible qui mène à une passation démocratique et pacifique du pouvoir, a dit la porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert. Des élections crédibles et transparentes aideront à soulager les défis humanitaires et de développement de la RDC, à améliorer la capacité du pays à attirer les investissements et à renforcer la stabilité à travers la RDC et la région, a-t-elle affirmé. La porte-parole a également affirmé que des élections transparentes écriraient un nouveau chapitre positif dans la longue relation entre la RDC et les États-Unis. Avec le début de la campagne, nous encourageons tous les acteurs à rester engagés envers le processus, à mener leurs activités de manière pacifique et à s'engager à respecter les droits humains, les libertés fondamentales et les valeurs démocratiques, a-t-elle ajouté. 21 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel.
Centrafrique, retour sur le cas de l'ex-chef de milice Alfred Yekatom, alias Rambo, qui comparaît demain devant la Cour pénale internationale. Il a été transféré samedi à La Haye, une première pour un responsable centrafricain depuis le début de la crise en 2012. Morgane Guiriec.
Alfred Yekatom, 43 ans, est un ancien chef de milice anti-Balaka dans les banlieues sud de Bangui et alentour. Rambo, comme il est surnommé, est ancien caporal-chef de l'armée centrafricaine. La CPI affirme qu'il dirigeait environ 3000 combattants et pourrait être tenu responsable de meurtres, tortures et traitements inhumains, mutilations, attaques intentionnelles contre la population civile et des bâtiments religieux. Alfred Yekatom est le premier responsable centrafricain transféré vers la CPI depuis le début des atrocités dans son pays. Il est devenu député en 2016 et a été arrêté fin octobre après avoir tiré dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ce n'est qu'une quinzaine de jours plus tard que La Haye a émis un mandat d'arrêt et demandé à Bangui de le livrer. La majorité des leaders de l'ex-Séléka sont toujours à la tête de groupes armés et continuent leurs exactions. Jeudi, des combats entre anti-Balaka et un groupe de l'ex-Séléka ont fait au moins une soixantaine de morts à Lindao, dans le centre du pays. Une église a été brûlée avec un prêtre à l'intérieur, ainsi qu'un camp de déplacés de cette ville.
À Ouagadougou, au Burkina Faso, deux personnes sont mortes dans un affrontement entre Kogluégo, un groupe d'autodéfense, et des bouchers à Tanga, un quartier de la capitale. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, fait le point.
Les affrontements ont éclaté dans l'après-midi vers 15h au marché populaire de Tanguin, au nord de la capitale burkinabé. Selon des témoignages, tout serait parti d'une action de représailles des membres du groupe d'autodéfense. Les Kogluégo se sont rendus à Tanguin, précisément au marché d'Arbria, pour en découdre avec des bouchers qui avaient roué de coups un de leurs membres le mardi. Explique un témoin. Le maire de l'arrondissement appelle à l'apaisement. Anatole Bonkungu.
Nous, les responsables de l'arrondissement, nous demandons en tout cas et la tolérance, demander à toutes les parties de garder le calme.
Plusieurs affrontements, souvent mortels, ont eu lieu ces dernières années entre les Kogluégo et les populations. Le gouvernement, qui a plusieurs fois annoncé des mesures pour encadrer ces groupes, n'a toujours rien fait de concret dans ce sens. Les Kogluégo sont apparus ces dernières années pour, disent-ils, lutter contre l'insécurité dans le pays. Mais ils ont été plusieurs fois accusés de meurtre, de torture et autres violations graves des droits de l'homme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Des ONG ont dénoncé hier une volonté des autorités sénégalaises d'affaiblir la société civile à l'approche de l'élection présidentielle du 24 février prochain. C'est en réaction au retrait de l'agrément d'une d'entre elles, l'ID Afrique francophone, accusée d'avoir financé de manière illicite le mouvement citoyen Y en a marre, selon la presse locale. L'État du Sénégal cherche à savoir la source de certains financements, leur montant et leur destination, a dit à l'AFP une source proche du ministère de l'Intérieur.
En Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos a réfuté hier les accusations de son successeur João Lourenço, qui, dans une interview au journal portugais Expresso, a dit avoir trouvé les coffres de l'État vides. Monsieur dos Santos a donné une conférence de presse surprise à Luanda, la première depuis son départ de la présidence en septembre 2017, pour dire entre autres avoir laissé à son départ environ 15 milliards de dollars à la Banque nationale d'Angola. Depuis son arrivée au pouvoir, Monsieur Lourenço a lancé une purge de grande ampleur dans l'administration et les entreprises publiques, purge qui a visé pour l'essentiel les proches de son prédécesseur.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le président américain Donald Trump a remercié hier l'Arabie Saoudite pour la baisse des prix du pétrole, 24 heures après avoir dit que les États-Unis n'allaient pas tourner le dos à Riyad, malgré la responsabilité saoudienne dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. L'Arabie Saoudite est, après les États-Unis, le plus important pays exportateur de pétrole dans le monde.
À noter que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Abdel Al-Jubeir, a mis en garde hier contre les appels à reconnaître la responsabilité du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Selon lui, de tels appels constituent une ligne rouge. Dans une interview avec la BBC, le chef de la diplomatie saoudienne a indiqué qu'aucune discussion dénigrant le prince héritier ou son père, le monarque saoudien, ne serait tolérée. Attiré dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre, M. Khashoggi a été tué et démembré, selon certaines informations. Ce collaborateur du Washington Post était très critique du prince héritier saoudien.
Le président Trump a dénoncé hier l'existence de juges pro-Obama, engageant une polémique sans précédent avec le président de la Cour suprême, John Roberts, qui s'était auparavant permis de recadrer le président américain en affirmant l'impartialité des magistrats. « Je suis désolé, monsieur le président John Roberts, mais il existe effectivement des juges pro-Obama », a tweeté le président Trump, accusant ses magistrats de prendre des décisions choquantes, entravant sa politique de fermeté anti-immigration. Le président de la Cour suprême est pourtant un juge conservateur, nommé à la haute cour par l'ex-président républicain George W. Bush.
La première ministre britannique, Theresa May, a été reçue hier à Bruxelles. Elle tente de résoudre les derniers points de blocage de l'accord de Brexit avec l'Union européenne à 4 jours d'un sommet extraordinaire à ce sujet. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Le président de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker et la première ministre britannique Theresa May ont discuté du cadre de la relation future entre Londres et l'Union européenne. L'accord conclu la semaine dernière portait, lui, sur le projet de traité de retrait du Royaume-Uni. Un texte de près de 600 pages. Il règle notamment la question de la facture que devra payer Londres à Bruxelles et prévoit une solution pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Avant de gagner Bruxelles, la dirigeante conservatrice avait une nouvelle fois affronté les questions des parlementaires britanniques qui devront ratifier cet accord. Elle a subi les foudres de son propre parti conservateur et des partis d'opposition. Quatre ministres de son gouvernement ont claqué la porte. Pour Theresa May, ce projet de divorce qui doit être approuvé dimanche lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles est le meilleur accord pour le Royaume-Uni après 17 mois d'âpres et difficiles négociations.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La minute éco, Nanit Talani.
Au Congo-Brazzaville, la compagnie pétro-gazière New Age envisage de céder son intérêt de 25% dans le bloc pétrolier Marine 12 qui pourrait récolter jusqu'à 1 milliard de dollars à l'issue de l'opération. New Age contrôle cette participation sur Marine 12 depuis 2010. Après une amodiation conclue avec Eni, l'opérateur du site, avec 75% actuellement. Le reste des parts est inscrit dans le giron de l'État congolais via la CNPC, la Société publique du pétrole. Au Mali, le Parlement autorise l'État à contracter un prêt chinois de 93 milliards de francs CFA pour le projet Mali Numérique 2020. Cet accord permettra la construction d'un réseau interurbain de fibres optiques long de 817,4 km et l'installation de 12 terminaux. Il y aura aussi un réseau urbain sans fil et une cinquantaine de terminaux supplémentaires. Ce réseau va permettre la transmission des informations des caméras de vidéosurveillance et des systèmes de téléphonie, notamment des institutions et organismes gouvernementaux. Pour terminer, le Japon accorde 5 millions de dollars en faveur d'un programme de nutrition dans les régions Ashanti et du nord du Ghana. Cette initiative, qui sera lancée l'année prochaine, touchera dans sa phase initiale 22 000 femmes enceintes et à l'été et concernera 29 000 femmes supplémentaires en 2020. Les bénéficiaires recevront des tickets électroniques pour recevoir des aliments spéciaux à base d'ingrédients produits localement.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Nigeria s'est repris dans la CAN féminine.
Oui, surpris par l'Afrique du Sud 0-1 pour son entrée en lice, le tenant du titre nigérian s'est repris en assommant la Zambie 4-0 hier lors de la deuxième journée du groupe B. Les Super Falcons se relancent donc dans la compétition et espèrent une victoire lors de la dernière journée pour valider leur billet pour le carré d'as.
Corentin Martins va prolonger avec la Mauritanie.
Le technicien français a exprimé son souhait de prolonger son contrat avec les Mourabitoun. En fin de contrat le mois prochain, Corentin Martins, en poste depuis fin 2014, devrait rester 3 ans de plus avec la Mauritanie, soit jusqu'à la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Corentin Martins a réalisé un exploit de taille, envoyé les Mourabitoun à la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire.
La CAF a suspendu 2 arbitres controversés.
Quelques semaines après les polémiques arbitrales qui ont émaillé les derniers matchs de Ligue des Champions, la CAF a réagi. D'après la presse de son pays, l'arbitre zambien Genisi Kazoué a été provisoirement suspendu après sa prestation chaotique en demi-finale à retour entre l'Espérance de Tunis et Primeiro de Agosto. Devenu célèbre pour avoir accordé 2 pénaltys très douteux à Al Ahly contre l'Espérance de Tunis en finale allée de la Ligue des Champions, malgré le recours à la VAR, l'Algérien Mehdi Sharef écope lui aussi d'une suspension provisoire en attendant son audition.
La dispute avec Green n'aura aucun impact sur l'avenir de Durant avec les Golden State Warriors.
Oui, l'ailier de Golden State a assuré hier que sa dispute avec son coéquipier Draymond Green la semaine dernière en plein match n'influencera pas sa décision de rester ou non avec les Warriors à la fin de la saison. Durant leur altercation en fin de match contre les Clippers, Green, à qui Durant a reproché initialement d'avoir gaspillé la dernière possession de balle, a accusé son coéquipier de vouloir quitter l'équipe en fin de saison et de ne pas l'avoir dit ouvertement. Green a été suspendu 1 match par ses dirigeants et depuis cet incident, Golden State a perdu 3 de ses 4 matchs. Et puisque nous sommes en NBA, on y reste avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Charlotte et Indiana, 127-109. Philadelphie et la Nouvelle-Orléans, 121-120. Toronto et Atlanta, 124-108. New York et Boston, 117-109. Et les Lakers et Cleveland, 109-105. Chicago et Phoenix, 124-116.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sevudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu est de retour à Kinshasa pour battre campagne pour la coalition Lamuka qui, le 11 novembre dernier à Genève en Suisse, l'a désigné candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre. Malgré le retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de cette coalition, les Kinois lui ont réservé un accueil chaleureux. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'avion ramenant à Kinshasa, Martin Fayulu a atterri peu avant 13h à l'aéroport international de Ndjili. À l'extérieur, l'attendaient des militants et sympathisants arborant les drapeaux de l'ECID, son parti politique, du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi et d'autres partis et regroupements de la coalition Lamuka, entendez Réveille-toi, qui l'a désigné candidat commun de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre 2018. La police a fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser des militants regroupés qui scandaient le nom de Fayulu, ce que déplorent ces jeunes interrogés par VOA Afrique.
Nous sommes dispersés d'ailleurs en débandade, tout simplement parce que l'ennemi de la démocratie ne voulait pas à ce que les gens constatent qu'il y a eu vraiment un franc succès sur les retours du candidat Martin Fayulu. Donc nous étions tous victimes lorsqu'on a commencé à tirer les gaz lacrymogènes. Il n'y avait aucun débordement. Et voilà pourquoi ils se sont dit qu'il fallait disperser les gens pour qu'ils les transportent manu militari ou de manière je ne sais pas comment cavalière.
L'un d'eux, pris par l'euphorie du retour de Martin Fayulu, lance même un ultimatum à Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui ont quitté la coalition Lamuka au lendemain de la signature de l'accord de Genève.
Je salue l'arrivée du président Martin Fayulu, le candidat commun de l'opposition. Je donne l'ultimatum de 24 heures à messieurs Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de revenir à la afin de soutenir le candidat commun de l'opposition, M. Martin Fayulu Madidi. Parce que s'ils vont parler de la base et qu'ils sont en train de chercher des négociations pour trouver un candidat commun entre les deux partis, moi je pense que le mieux serait de soutenir les candidats déjà choisis.
La mobilisation en faveur du candidat commun de l'opposition était également perceptible le long du boulevard Lumumba, ce qui satisfait Désiré Mbondi Wambozi, secrétaire national en charge de la mobilisation au MLC de Jean-Pierre Bemba.
Plus que satisfait, deux niveaux. Au premier niveau, parce que nous connaissons l'homme. Deuxièmement, vous avez vu comment il y a eu la spontanéité de la population pour l'accueillir, en dépit des bavures policières enregistrées.
Le point de chute du cortège de Martin Fayulu était la place triomphale, en face du stade des Martyrs, où un meeting a été improvisé. Adolphe Mozito, Freddy Matungulu et Eve Bazaïba ont tour à tour pris la parole pour appeler leurs militants respectifs à voter le moment venu pour le candidat commun Martin Fayulu. L'alternance a un nom, c'est Martin Fayulu, a par ailleurs souligné Martin Mukonkole, cadre d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi.
On nous avait demandé d'avoir un candidat commun, mais aujourd'hui nous avions présenté un candidat unique de l'opposition. C'est un grand plaisir pour nous et c'est une grande joie pour nous. Et l'alternance, elle est là, elle est venue avec Martin Fayulu. Et c'est la volonté de notre leader qui est Moïse Katumbi. Donc pour nous, c'est Fayulu, président de la République, le 1er janvier 2019.
Prenant la parole pour conclure, Martin Fayulu a déploré l'usage par la police des gaz lacrymogènes pour disperser ses militants, saluer la mobilisation des Kinois venus l'accueillir ce 21 novembre, jour de ses 62 ans, remercier les leaders de la coalition Lamuka et annoncer qu'il démarrera sa campagne électorale par un grand meeting dans la capitale de la RDC, Kinshasa. Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, la mission de contrôle des officines, dépôts pharmaceutiques, laboratoires d'analyse médicale, cliniques médicales et des cabinets médicaux a décidé après enquête de fermer une centaine d'établissements privés. De N'Djamena, notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
Sur plus de 300 établissements contrôlés dans les 10 communes de la ville de N'Djamena, 93 doivent être fermés et 101 sont mis en demeure parce qu'ils sont soit installés sur les lieux non indiqués, soit ne respectent pas les règles d'hygiène ou encore la marge bénéficiaire. Ils auront un délai qui sera fixé par un comité de suivi pour se conformer aux normes. Pour le vice-président de l'Ordre des pharmaciens du Tchad, Dr Haroun Badawi, la mission a une limite qui ne lui a pas permis de contrôler tous les établissements de la capitale.
C'était juste à la sortie de la saison pluvieuse, donc la mission n'a pas pu accéder à certaines zones de la ville de N'Djamena. D'autres ont pu échapper parce que pendant la mission, ils ont complètement enlevé les plaques. Certains ont même peint les devantures de leur structure. Tous ceux-là ont été relevés. Une autre procédure sera engagée.
Des procédures seront également engagées contre les techniciens du ministère de la Santé publique qui ont abusé de la confiance placée en eux, informe par ailleurs Dr Haroun Badawi.
Il y a des gens qui ont loué leur licence à des personnes non professionnelles. Pour ceux-là, la mesure est claire. Ces pharmacies sont à fermer. Nous avons aussi constaté qu'il y a des arrêtés autorisant des techniciens à exercer, mais les 7 à d'autres personnes. Et pour ceux là, les mesures sont déjà prises. Nous avons constaté que les gens s'approvisionnent au niveau du marché de la riz. Il y a un impact négatif sur la santé de la population. Est-ce que tout Tchadien peut vendre les armes en pleine rue? Du moment s'il est interdit de vendre les armes en pleine rue, il est aussi interdit de vendre les médicaments en pleine rue. Nous pensons que c'est un début, mais ce début ne peut aboutir que si le premier responsable du ministère de la Santé a les mains libres.
Conscient de la gravité de la situation, le ministre de la Santé publique Aziz Mohamed Saleh prend l'engagement d'aller en guerre contre ces établissements et les détenteurs des pharmacies de la rue qui sont en porte-à-faux avec les normes et avec la législation.
Nous allons lancer le processus pour la création d'une police sanitaire pour permettre de faire ce travail de police quotidiennement dans le cadre de nos actions et ça va toucher aussi les actions de lutte contre le faux médicament dans nos rues. Un certain nombre de provinces vont également être ciblées dès le 1er janvier 2019 pour également faire ce travail pour qu'il y ait une cartographie sanitaire qui corresponde aux besoins de la population.
Selon les autorités sanitaires, cette opération vise à assurer à la population l'accès aux services de santé de qualité pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité et lutter contre la prolifération anarchique des établissements privés de soins et des dépôts pharmaceutiques qui exercent sans aucun respect des normes. André Kotmadjingar, N'Djamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Côte d'Ivoire, le quotidien d'État Fraternité Matin va licencier près de la moitié de ses effectifs. Ce plan social massif doit prendre effet le 18 décembre. La direction parle de sa situation financière très dégradée et cherche ainsi à redresser ses comptes. L'ensemble du personnel tient son assemblée générale aujourd'hui pour décider de la suite à donner à cette mesure. Eric Manirakiza a joint à Abidjan le porte-parole du collectif des délégués du personnel de Fraternité Matin, Marc Yevou.
C'est la direction qui a établi ces critères, c'est elle qui a affiché la liste des personnes qui doivent partir. Donc je suppose qu'elle s'est installée dans les critères qu'elle-même a établis.
Des critères qui sont prévus par la loi du travail?
Non. C'est l'employeur qui veut voir des employés partir qui établit ses critères. Alors, ces critères en fonction de ses besoins. Et c'est ce qui s'est passé ici en fonction des réalités du terrain. Donc, ils ont établi leurs critères. Mais la question, savoir est-ce que toutes les personnes concernées entrent dans les critères. C'est là le gros point d'interrogation.
Donc, pour vous, ce ne sont pas des critères objectifs?
En tout cas, il y a matière à discussion. Ça peut se discuter, mais quitte à l'employeur vraiment d'expliquer ou de donner la preuve de ce que les critères sont objectifs. Mais au vu de ce qui a été établi comme critère et surtout la liste des journalistes concernés par la mesure, je pense qu'il y a matière à discussion.
Qu'est-ce que vous contestez exactement?
Ce sont les délégués du personnel qui ont reçu le courrier du départ des personnes concernées. Donc, les délégués du personnel vont informer l'ensemble du personnel ou d'une assemblée générale. C'est après cette assemblée générale que nous aurons vraiment tous les éléments, quoi, puisque c'est eux qui vont nous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants en fonction des courriers qu'ils ont reçus.
Y a-t-il un paquet retour prévu pour les personnes qui vont partir?
C'est l'assemblée générale qui va décider de la suite à donner, quoi, à la situation. qui, de façon consensuelle, va décider de ce qui doit suivre.
Mais vous connaissez déjà les noms de ceux qui vont partir?
Oui, il y a une liste de 123 personnes.
L'entreprise parle des problèmes financiers. Est-ce que vous le vivez, vous le voyez?
C'est à partir du Conseil des ministres de novembre 2017 que nous avons été informés que l'entreprise a des difficultés financières.
Est-ce qu'il y a eu un audit quelconque, financier et organisationnel?
Nous n'avons jamais été associés à cela, donc je ne saurais vraiment vous répondre. Mais quand le gouvernement en parle, je suppose qu'ils ont des éléments sur lesquels ils s'appuient pour avancer cela. Donc je ne saurais vraiment vous le dire.
Il y a 32 départs volontaires selon la note de la direction.
Oui.
Est-ce que vous êtes au courant? Dans quelles conditions?
Les conditions de départ volontaires ont été affichées, le nombre de mois de pécule, tout a été affiché. Et donc, en toute responsabilité, ceux qui cherchaient à partir volontairement ont vu d'abord les conditions et c'est en toute responsabilité qu'ils se sont inscrits sur la liste. Les conditions étaient déjà connues de tous.
S'agit-il des conditions satisfaisantes ou...
Non, naturellement, pas des conditions satisfaisantes parce que le montant qui avait été prévu initialement par le gouvernement n'est pas celui qui avait été respecté. Là où le gouvernement avait prévu 1,4 milliard et l'ancien ministre de la communication parlait de donner 24 mois de pécule en plus des droits légaux aux travailleurs qui partent, et on est revenu à une opération avec 800 millions et donc les pécules partaient de 5 à 12 mois. Vous comprenez que ce n'est pas du tout réduisant pour des gens qui ont passé toute une vie dans une entreprise.
Marc Yévou, porte-parole du collectif des délégués du personnel de Fraternité Matin.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Burundi, le gouvernement a suspendu il y a quelques semaines des ONG étrangères ayant refusé de se soumettre aux nouvelles conditions de l'État. Cette suspension a eu entre autres un impact négatif sur la vente des objets d'art dans la capitale Bujumbura. Reportage de notre correspondant sur place, Christophe Kurunziza.
Sur l'avenue du stade au centre-ville de Bujumbura, entre l'ancien stade de football et l'ancien hôtel Novotel, se trouvent de petits kiosques en bois. C'est ici que l'on retrouve des antiquaires ou vendeurs et acheteurs d'objets d'art. Une bonne dizaine de vendeurs attendent impatiemment des clients surtout occidentaux, qui se font rares depuis la mesure gouvernementale de réenregistrer les ONG étrangères et ou nationales. Joséphine Ndikumugo, en gros 39 ans, a embrassé le métier de vendeuse d'objets d'art depuis une dizaine d'années et reconnaît que ces derniers temps, les rares clients sont de nationalité chinoise. Joséphine prie pour que les Bazungu, européens en français, reviennent faire leurs achats.
Ça marche un peu, mais à cause de l'insécurité au Burundi, nous n'avons pas eu maintenant les Bazungu, les Blancs, les Européens. Maintenant, on réussit les Chinois seulement. Mais les Chinois ne peuvent pas acheter beaucoup de choses. On vend seulement les bois noirs, mais les bois africains, ils ne peuvent pas vendre. Et nous avons les familles, nous avons les enfants, nous avons les orphelins que nous habitons ensemble. Nous demandons pour le gouvernement nous aider, les organismes pour vivre.
Assis à quelques mètres de Séraphine, des collectionneurs et vendeurs du monde de l'art jouent le jeu de cartes en attendant d'hypothétiques clients pour acheter leurs pièces en provenance du Burundi, de la RDC, de la Tanzanie. Willy Chabani a son kiosque d'objets d'art depuis une vingtaine d'années, il nous indique que les temps sont durs.
Je ne peux pas dire que ça va, mais par rapport au auparavant, on peut dire qu'il y a un petit changement. Quoi. Mais quand même, on vit. On a des clients selon ce qu'on vend. Quoi. Il n'y a plus des Européens, nous n'en avons que des Chinois et des Arabes. Et aussi des Burundais qui viennent parfois nous acheter nos produits ici.
Le porte-parole de l'association des antiquaires du Burundi, Chabani, père de 5 enfants, estime que grâce au Tout-Puissant, ils parviennent à lier les deux bouts de la journée.
Il y a du travail au quotidien qui nous fait vivre. Comme vous le savez, notre pays a des problèmes économiques. Il faut le dire. Ces derniers temps, il y a très peu de touristes qui viennent visiter notre pays. Et nous subissons les conséquences car ce sont les touristes qui nous faisaient vivre. Mais grâce au Tout-Puissant, grâce à Dieu, nous survivons. Si je compare l'économie d'hier et d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement nous qui subissons, c'est quasiment tous les Burundais. Notre situation n'est pas bonne, mais on continue à remercier le bon Dieu, car les touristes ont vraiment diminué leur visite au Burundi.
Le Burundi était dernièrement une plaque tournante de nombreux objets d'art en provenance de la région et du reste de l'Afrique. La recherche d'objets d'art contribuait à soutenir ce secteur de l'économie du pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Drissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.